On parle du surendettement. Je t'écœuré.
Mais ça va avec ce que tu disais tantôt. On est rendu dans un mode où on est en train de bâtir un gros problème. Puis ça, c'est lié justement à nos petits problèmes, l'accumulation de nos petits problèmes qui fait en sorte que là...
C'est parce que le monde n'arrête pas de dire qu'ils n'ont pas une sacrifice de scène. Mais là, là tu vas te prendre, je suis allé chez Future Shop m'acheter quelque chose. Là. Tout le monde sort avec des ordinateurs de fou, la laveuse, la sécheuse. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont une grosse maison, les deux chars, les trois portes de garage. Ah ouais,
mais là, gros kit. T'es-tu jaloux?
Je suis pas jaloux. C'est qu'arrêtez de dire que vous n'avez pas une crise de scène si vous dépensez comme des cadres.
Ouais, mais qui dit qu'ils n'ont plus de scène?
Qu'est-ce que tu entends dire tout le temps que la société, la classe moyenne? Non, mais smart!
C'est ça que je veux dire.
Toi, as-tu la prétention de dire que tu as de l'argent?
Mais pourquoi tu me parles de moi? Je te parle des autres.
Moi, tu me parles de moi et je te parle
de
toi.
On vient de parler de qui, là?
Toi, avec ta grosse cabane.
C'est moi qui se doit le cul, ta barnaque, qui a pas de scène.
Toi, t'as le profil du Norbourg, toi.
Bon, à tous les corps, ouais.
Toi, t'es un qui va nous amener.
Toi, t'as le profil Vincent Lacroix.
Toi, si, là.
Ça, c'est de la haine. Je m'attendrais à un commentaire de Seb le haineux, mais jamais de toi, là.
Ben oui, mais là, tu me
c'est l'émotion, là.
T'es venu me chercher.
Pas moyen qu'il s'appelle Imo.
Quand il sort sa cravate pis qu'il t'amène avec ses petits kits des pantalons français à la FIF, là. Bon, hey, je veux dire, hein?
Écoutez, là, je pense que là, il y a...
Je pense qu'il y a un petit dérapage.
Oh, il y a des dérapages.
Non, mais sérieusement, le surendettement.
Oui, je suis d'accord.
Ben oui, on en parle.
Mais c'est ça, je te dis. C'est parce que, là, moi, à un moment donné, regarde les décorations de Noël arrivent. OK, l'Halloween n'est même pas encore passé, qu'on est quasiment rendu à Noël déjà. C'est de la consommation, de la surconsommation. C'est dans tout. C'est dans toute la vie et de la consommation. C'est correct, c'est marketing. J'ai rien contre
mais,
ça.
Regarde, je vais pas faire un show, l'avocat et le diable, là. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
Il n'y a rien de mal à ça dans la mesure où arrêtez de nous blaser avec vos discours que ça va si et ça va mal, ça va si mal que ça. C'est pas le cas. Quand tu regardes aller le monde, c'est pas le cas, Smart.
Ben, c'est ce que je disais en début d'année.
Oui, mais
les gens
ça,
nous parlent d'une récession, les gens nous parlent de problèmes financiers importants que nos gouvernements seront peut-être même pas capables de rencontrer ou de résoudre. Mais comme tu le dis, là. Et les bonbons de l'Halloween sont sortis, puis le monde, ça s'arrête pas, là, puis ça continue, puis les décorations de Noël.
C'est parce qu'il faut arrêter de mettre la montagne bien haute quand tu te rends compte, finalement, que tu peux quasiment passer du temps en faisant un enjambé. C'est ça qui est le problème. C'est qu'à un moment donné, c'est comme deux discours. Un, t'es dans la marde, puis l'autre, tout le monde se met dans la marde.
Mais je te dirais qu'il y a un cercle vicieux aussi à ça. Toi, t'as une entreprise demain matin. Là.
Oui.
Toi, t'es propriétaire de la chaîne Future Shop.
Oui.
OK? Toi, là, t'as des employés à faire vivre aussi, là.
Oui.
Okay, tu as des magasins, tu as une infrastructure importante. Oui. Je veux dire, si le crédit, c'est la clé à ton succès, là,
tu veux pas l'arrêter?
Non, mais honnêtement, tu es à la tête de Future Shop. C'est ta business, Duff.
À 28% d'intérêt, le crédit, j'ai pas de
problème. Non, mais c'est ta business. C'est ta business.
Oui.
Tu rouvres-tu le crédit ou tu le rouvres pas?
Ben oui, c'est sûr que tu le rouvres.
Regardez, là, dans la région de Québec, tout le monde connaît la famille Tanguay.
Oui.
Qu'est-ce qui fait le succès de Tanguay?
Payer dans 50 mois.
Qu'est-ce que Tanguay annonce? Il annonce pas des meubles.
Il annonce 50 mois de payer.
Il annonce du crédit.
Ouais.
Puis c'est ça la force. Bro et Martineau, dans la région de Montréal, c'est du crédit.
Ouais, mais c'est normal, les gens n'ont pas le moyen de se payer cash.
Le club piscine, tu penses à quoi? Une piscine à 27$ par mois?
De l'eau?
Non, mais c'est... Non. Je vous donne...
Été, chaud, chaleur.
Moi, je pense à un rond jaune avec un smiley dedans.
Tu sais, moi, je pensais avec un petit bikini, moi.
Ce qu'on n'a pas eu cet été, là, le soleil.
Les gars, jouez dans le jeu deux secondes.
Ouais.
Sérieusement.
On joue dans le jeu. Il est plate.
C'est des entreprises.
Non, t'étais bien meilleur.
C'est ça. Vous voyez pas ce qu'ils font? Moi, je le vois. Non, mais vous comprenez qu'il y a des entreprises qui ont trouvé le filon. Écoute, là.
Mais c'est sûr que le filon, c'est le crédit, Smart.
Les gens, quand ils vont, je reprends encore l'exemple de Mme Tanguay, ils vont pas acheter un divan. Ils vont acheter 50 versements de 20$ par mois.
Ouais. Ben c'est ça qu'ils vont acheter. Pas le prix, c'est 22$ par mois. Faut que tu le demandes, c'est quoi le prix?
Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça que notre société s'est construite. Mais à quelque part, moi, je me dis, non, puis quand je dis, il n'y a pas de mal à ça, si ça fait rouler des magasins qui engagent des gens, qui après ça, eux autres vont acheter des maisons.
Pas de mal à ça, moi,
qui
non
eux
plus.
Autres vont acheter, les autres vont acheter des maisons. Tu sais, je veux dire, oui, à quelque part, si c'est le levier qu'on a trouvé, le problème, si tu y es où, Duff? C'est quand t'as pas la capacité d'emprunter.
Mais moi, j'ai pas de problème contre le commerçant qui annonce du crédit, Smart. C'est pas ça que je te dis. Moi, ce qui me fait suer, c'est qu'à un moment donné, le monde n'arrête pas de dire qu'ils sont dans la misère et que ça va pas bien, mais que tu vas dans les magasins et que ça dépense comme des caves. Garde le taux d'endettement. Tu veux que je t'en donne des chiffres du taux d'endettement?
Ouais.
va t'en donner des toits. Là, t'es un peu. Hein? Ben oui, ben je me place.
3.
Le 2.
C'est chiffre de
42%. 28%, c'est-tu pas outrageux? 42%!
On a 10% dans le coin là-bas, là. 3 fois vendu.
Non, non, mais... Hey, c'est pas terrible, 10%.
Mais sérieusement, on va garder un peu de sérieux. L'Institut de la statistique du Québec a sorti justement le taux d'endettement au Québec et au Canada entre 1981 et 2007. Donc, c'est quand même assez récent, on s'entend, les statistiques. C'est sûr que 2008, on est pas mal dedans, donc on s'entend qu'on n'a pas la statistique. Si tu regardes le taux d'endettement, je te dis, tu veux-tu avoir le revenu en moyenne, ben le revenu genre par famille qu'il y avait en 81?
On va y aller par famille.
Par famille, OK. Si tu regardes le revenu qui était disponible, OK, en 1981 en moyenne, OK, on parlait de 56 549, OK?
Pour une famille.
Oui. Mais ce taux-là, le crédit à la consommation était de... Ben, en fait, le pourcentage du taux d'endettement en 81 était de 15,7%. OK? 15,7%. Si tu regardes en 87, je te dirais, parce qu'il y a comme eu une période charnière à un moment donné, ça a plus ou moins monté.
Ben, c'est compréhensible. En 80, début des années 80, les taux à 15, 16, 17...
Ouais, mais c'est ça, t'avais une crise économique
même
à ce moment-là.
Même si ça s'est replacé en 84, 85, les gens ont peut-être été ébranlés.
Mais tu sais, aller jusqu'en 87, pour une famille, le taux qui est... Si tu calcules le revenu qui était de 84 819, on était rendu à un taux d'endettement de 19,3%. OK? Là, il y a eu un palier, je te dirais, où ça a quasiment pas bronché entre 88 et 98. Ça a quasiment pas bougé. Vois-tu, le taux en 88 était de 20,7%. Puis tu regardes, en 97, il était de 22,6%. Donc, c'était pas énorme, la différence. Si tu regardes dans les 10 dernières années, Smart puis Witness, sérieusement, là, il y a eu une dégringolade au niveau des taux d'endettement, par exemple. 98, on était rendu à 23,4. Ça montait quasiment de 2% par année pour en être rendu aujourd'hui à 36,2% d'endettement.
Oh, ouais.
32,6%, 36,2%, ça commence à être de l'endettement. Si tu calcules que tu as 50% d'impôts pratiquement, on a quelqu'un en onde, justement, qui va en parler, je pense. C'est-tu notre ami Daniel?
Oui, ben. Bonjour. Et là, pour ce soir, on va l'appeler notre informateur informé.
Oui, oui.
Est-ce que je parle assez fort?
Oui, oui, ça va. Et Daniel, inquiète-toi pas, j'ai passé le message, on va mettre du gain au maximum.
On veut t'entendre.
Ça va bien sonner, rendu au podcast.
OK, pas de problème.
Non, mais Daniel, qui en passant est presque un habitué, hein, on va t'avoir sur une base régulière, parce que Duff a amené un bon point par rapport à l'endettement, mais je pense que toi, t'as encore fouillé un petit peu plus par rapport à un aspect que aussi on regarde pas souvent.
Qu'on néglige peut-être.
On néglige.
Ouais, ben pour le crédit, mais Duff, t'avais-tu terminé avec tes stats?
Oui,
c'est beau, ben je voulais pas toutes les sortir non plus, mais c'était pour donner les cartes. Ben, on est rendu à 36,2%.
Ben oui, on voit la progression, là. Fait ouais.
Mais entre 98 à 2008, c'est quasiment de 2% par année, là. Dans les dernières années, c'est quasiment du 2% que ça augmente tout le temps.
Oui. Okay.
Ben, ce que je voulais vous dire, c'était qu'est-ce qu'il y a après, admettons que t'as des troubles avec ta dette, qu'est-ce qui va se passer, comment ça affecte ton crédit, les agences de collection, les choses comme ça.
Oui, parce que les gens oublient assez souvent qu'il y a des conséquences à cet endettement-là, parce qu'à un moment donné, quand t'atteins, là, je dirais, là, on était à quoi, là?
36,2% en 2007.
Quand t'es rendu à ce point-là, là, ça passe ou ça casse, puis quand ça casse,
ça casse
solide. Les gens pensent que, oui, je vais faire faillite, puis ça va être oublié. Non, attends un peu.
Il y a des conséquences à ça.
C'est ça, puis je pense que, Daniel, c'est important d'en parler ce soir, parce que ça va peut-être faire réfléchir des gens. Puis je te laisse, vas-y.
Okay. Bon, mais je vais juste passer au travers de quelques petites informations à propos de comment le crédit fonctionne, pour ensuite que vous puissiez comprendre pourquoi il y a des conséquences. Au départ, premièrement, il y a deux agences au Canada qui s'occupent du crédit, c'est Equifax puis TransUnion.
Yes.
Ça, s'appelle. Eux sont des agences de collection, sauf que ils traitent des informations. C'est des agences de collection de données.
Oui. Et en passant, ce que j'aime, excuse-moi de t'interrompre, oui. Je veux juste dire aux gens, moi, je me suis abonné au service. Maintenant, ces compagnies-là offrent par l'intermédiaire de compagnies de crédit. Moi, c'est la HSBC qui m'offre. À raison de... Et là, regarde, c'est pas donné. Je l'ai fait parce que, regarde, je viens de me construire une maison, puis je brassais pas mal dans mon dossier de crédit. Mm-hmm. Mais pour 17 $ par mois, j'ai accès à mon dossier de crédit en tout temps. Okay. Je peux imprimer un rapport et j'ai des alertes qui me sont envoyées à mon courriel, sur mon téléphone cellulaire, à toutes les fois que quelqu'un vient voir.
C'est parfait, ça.
Et vous seriez surpris, je vous le dis, vous seriez surpris du nombre de gens qui vont venir voir votre dossier de crédit Puis des fois, tu te dis, puis regarde, le dernier coup, c'est ma caisse. J'ai appelé, j'ai dit, pourquoi vous êtes venu voir mon dossier de crédit? J'avais rien demandé. Ils sont venus voir. Les gens seraient surpris.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils t'ont
envoyé? C'est surtout, de toute façon, tu vas avoir la liste de toutes les gens qui viennent fouiller. Puis, il y a, par rapport à la loi sur le recouvrement de certaines créances, puis la loi sur le renseignement confidentiel dans le secteur privé, quand, admettons que toi, tu fais affaire avec, admettons que tu vas aller signer une entente avec une institution, peu importe c'est quoi, eux, à la fin, ils vont te demander, est-ce qu'on peut, tu me donnes-tu l'autorisation de communiquer avec des tiers parties, tu sais? Ça, là, c'est justement là, c'est ça qui leur permet de pouvoir envoyer ça à une agence de collection. Fait que si tu dis non, là, ils peuvent pas le faire. Sauf que si tu dis non, ben, ils signeront pas tes affaires.
Ouais, c'est fait ça, que, c'est comme un piège un peu. Hein?
C'est ça. Fait que, en bout de ligne, donc, on a deux agences de collection qui sont des agents, des compagnies de crédit, qui sont Equifax et TransUnion. Puis les deux, ils tiennent un score. C'est qu'on appelle le pointage de crédit, on appelle ça le Beacon Score. Le Beacon, c'est comme un indicateur en anglais. Puis ton Beacon, c'est...
C'est pour ça qu'on dit des fois, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de Beacon, j'ai pas bien d'argent. C'est
non, ça. des fois, ton Beacon, il est faible. Il est pas bien gros. Le Beacon Score, ça part de 0 à 910. Plus ton pointage est élevé, plus ton crédit est bon.
OK.
Dans ton pointage, si tu as moins que 621 points, tu vas généralement être refusé pour tout plein de choses. Sauf, mettons, les deuxièmes chances au crédit, puis les affaires comme ça, les prêts à la Wells Fargo, etc. OK? Ceux qui vont, eux autres, ils vont t'offrir des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, par exemple.
OK.
Entre 621 à 680, généralement, c'est un humain qui va décider. Il va prendre tes informations en considération, puis il va dire si oui ou non ça marche. Puis, c'est basé sur ta maturité de crédit, soit ton expérience. Entre 681 à 720, t'es généralement accepté pour n'importe quoi, mais il y a des vérifications d'usage. Mais généralement, tu peux, comme si tu fais des demandes de carte de crédit sur Internet, des choses comme ça, c'est oui. Automatique.
Puis, regarde, tu vois, en même temps que tu le dis, là, tout à l'heure, après l'émission, je vais vous le montrer. Puis, effectivement, la grille de pointage que tu donnes là, c'est vraiment ça. Puis, t'aurais-tu un conseil à donner? Parce que, je sais pas si tu as cette information-là, je t'en demande peut-être trop aussi, Daniel, mais avant l'émission, je parlais à Seb, puis je disais à Seb, écoute, parce qu'il, sans dire qu'il se vante, il n'y a pas de dossier de crédit vraiment, il n'y a pas de carte de crédit. Puis
il paye tout de cash.
On le sait, il arrive tellement de cas où les gens, effectivement, ils ont toujours bien payé, mais cash, puis quand ils arrivent pour faire un emprunt important, assez souvent, ça va être une maison, une première auto, là, ils vont tomber les bras à terre parce que les gens vont leur dire, ton dossier de crédit, il est à plat. Tu sais,
oui,
ta cote n'est pas là.
Ce qu'il faut que tu représentes, c'est une maturité de crédit.
Ouais. Mais je sais pas, as-tu les paramètres qui influencent cette cote-là?
Oui.
Parce que il y a la fréquence par rapport à ton taux de remboursement. Y a, si tu payes dans les délais, parce que moi je vois là, tu sais, j'ai 30, 60, 90 jours, puis là, j'ai tout un dashboard avec les lumières qui me dit, garde, t'es un bon payeur. Après ça, c'est ça, t'as le niveau d'endettement, puis justement la capacité à prendre des engagements à long terme, que tu rembourses à long terme. Parce que moi, à un moment donné, je m'interrogeais sur mon score. Parce que j'empruntais des gros montants, mais je les remboursais rapidement. Tu sais, exemple, brasser beaucoup d'argent sur une carte, mais en 3 mois. Mais eux autres, ce qu'ils voulaient voir, c'est est-ce que tu peux emprunter un gros montant, puis à long terme, l'absorber, puis avoir la capacité vraiment... Parce qu'ils voient qu'il y a du mouvement, mais ils se disent, c'est de la poudre aux yeux, parce que tu sais, n'importe qui pourrait jouer avec sa carte de crédit, mettre 10 000 un mois, le rembourser le mois d'après, mais... Ouais. Ça prouve pas qu'à long
parce
terme.
Parce que c'est ça, ça ne représente pas une maturité de crédit. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça.
Effectivement.
OK. Tu veux que je continue avec ça, puis je vais donner les points pour Seb après?
Oui, parce que...
Je vais juste terminer que si tu as 721 points et plus dans ton pointage, tu es accepté pour tout.
Oui.
OK. Puis dans ton dossier de crédit, ben là, c'est ça, les conséquences, c'est qu'admettons que tu fais faillite. Tous tes comptes, il y a des cotes qui sont situées pour chaque... qui représentent chacun de tes comptes. R7, R9, etc. Les R9, ça se trouve à être des, mettons que tu avais un compte que tu n'as pas payé pendant plus que 120 jours, je pense, ou 90 jours ou 120 jours, ça va dans les profits et pertes, ça devient R9, puis ça a un impact majeur dans ton dossier de crédit au niveau négatif, c'est très mauvais. Ça te fait perdre beaucoup de points.
Et Daniel, d'où l'importance justement de suivre l'évolution de son dossier de crédit.
Oui. Parce que il y a tellement d'erreurs dans les dossiers de crédit. Hey. Je suis convaincu que si tout le monde qui écoute, là, ils font leur demande de vérification de dossier de crédit, là, je suis pas mal certain que 90% vont avoir des erreurs.
Sais-tu quoi? Moi, à un moment donné, je me suis aperçu en... Puis pourquoi j'ai cru en... Puis que je paye toujours cette foutue 17$-là par mois, c'est qu'à un moment donné, je me rendais compte que j'avais été exemple chez Cuir Danier. J'avais acheté un manteau de cuir, Puis là, il m'avait offert une carte de crédit, puis il me disait que si j'ouvrais une carte de crédit, il me donnait, je sais pas, 10 % de rabais.
T'avais plein de cartes ouvertes encore, toi, on dit?
Et c'est ça, j'avais des cartes actives un peu partout. Puis, puis là, tu te rends compte que finalement, ça affecte aussi ton dossier de crédit.
Quand t'en as trop, c'est pas bon.
C'est pas bon, effectivement. Puis de voir ton dossier de crédit, c'est comme d'avoir accès à ton pedigree, de maintenir ton CV à jour, puis de c'est voir. Ça. Parce que le problème, les gens en veulent des fois à Equifax ou à ces compagnies-là qui vont transmettre justement lorsque tu vas passer le moment de faire ta transaction, ils vont en vouloir à Equifax à cause que le dossier n'est pas bon. Mais le problème, là, c'est à la source, c'est l'émetteur.
C'est, c'est pas eux qui vont... Eux autres, c'est pas eux autres qui ont l'information. Eux autres, ils reçoivent l'information.
C'est ça, ils la consolident.
Exact. OK. Fait que, admettons que tu as fait faillite, OK? Admettons que tu n'es plus capable de payer. Ça va vraiment pas bien. Tu as plein de choses que tu dois, plein d'argent, plein de dettes. Tu as plusieurs choix. Tu peux tenter de faire ce que tu peux pour les payer, contacter tes créanciers puis tenter de prendre des arrangements avec eux autres pour éviter que ça aille à une agence de collection ou que tu es obligé de faire faillite. Tu peux aussi aller voir un syndic de faillite. Puis ces gens-là peuvent faire des consolidations. Ils vont, c'est pas faire une dette, c'est pas faire une faillite, mais ils vont faire une consolidation de toutes tes dettes.
Et ça,
tu peux à ce moment-là, lui, il va prendre ce syndic de faillite-là va te charger quelques frais, puis il va contacter tous les gens à qui tu dois de l'argent, puis il va leur dire, OK, toi, il te doit 1 000 $, mais on t'en offre 250, ça va-tu, oui ou non, sinon tu auras rien. Fait qu'il va dire oui, puis il ramasse tout ça ensemble, mais il met ça dans un paquet que tu payes à temps par mois, mettons sur 10 mois ou sur un an. Puis une fois que ça s'est fait, tous tes comptes, ils tombent à... Aussitôt que ton entente est prise, tes comptes, ils tombent à R7. Automatiquement, ton pointage augmente. Puis là, tu payes ça pendant le temps que c'est nécessaire, mettons un an, je pense. Puis après ça, ces dettes-là sont toutes éliminées. OK? Fait que ça disparaît, ça va disparaître de ton dossier de crédit. Fait que ces choses-là, ça va être là pendant 3 ans, mais après 3 ans, au lieu de l'être pendant 7 ans si tu as fait faillite, ça va être là pendant 3 ans, puis après ça, c'est disparu. Fait que ton pointage, il va augmenter. Fait qu'admettons que tu as décidé de faire faillite parce que c'est la seule solution. Ton score, il tombe automatiquement, peu importe combien que tu as, il tombe automatiquement à 550. Okay? Comme je disais tantôt, si tu es en bas de 621, tu es refusé pour pas mal de choses. Fait que comment tu peux faire pour remonter ton crédit?
Oui.
Okay? Donc, il y a des cartes de crédit qui sont des cartes de crédit sécurisées. Okay? Si tu prends une carte de crédit sécurisée pour puis tu déposes 500 $ dessus, ça augmente ton pointage de crédit de 40 points.
Mais...
Si tu mets 1 000 $ dessus, ça augmente de 80 points.
Excuse-moi de t'interrompre parce que en même temps que je te parle, je regarde mon dossier de crédit. C'est à 710 et plus, hein?
721,
tu vois, c'est ça. Ouais. Je regarde le mien. Moi, je suis à 726. Et là, c'est pas de dire que je suis le meilleur, là. Parce que tu peux obtenir un 700.
Mais non, il veut dire qu'il est le meilleur.
Non, mais un 700.
Oui, il va plugger.
Non, mais ce que je veux dire par là.
Regarde bien ça. Tu fais faillite, tu tombes ton score à 550, tu prends une carte de crédit sécurisée, tu mets 1 000 $ dessus, tu tombes à 630. Après ça, quand tu as 600 ans, tu fais une demande pour une vraie carte de crédit, exemple une Mastercard Banque Nationale, tu montes de 100 points direct là, tu montes à 730.
Ah oui, bien, regarde.
C'est quoi la différence que j'ai faite? J'ai trouvé bien du temps par rapport à toi.
Ben oui, je sais. Non, je suis tout à fait d'accord.
C'est facile.
Oh oui, non, c'est facile. Ouais. Puis, regarde, j'ai eu des problèmes étant plus jeune avec certaines cartes. J'ai pas fait de faillite, mais j'ai eu des problèmes. Mais j'ai su quoi faire, justement, pour effacer ça. En jouant à travers la structure que tu mentionnes là. Mm-hmm. Puis les gens, ils vont dire, ouais, mais là, c'est compliqué. Mais non, c'est juste de s'intéresser à ton dossier, à toi, là. T'as pas d'affaire.
C'est ta vie. C'est ta vie financière.
Mais moi, Daniel, j'ai une question peut-être que beaucoup de gens se posent, puis un peu comme ça. Mettons que quelqu'un, là, je sais pas, il y a deux, trois, quatre. Il doit 3 000 $ là, 4 000 $ là, puis... mais qui paye toujours. Mais qui en a toujours sa carte.
Oui.
Y a-tu un bon crédit ou y en a un pas bon?
Ben, ça dépend. OK. Quand tu vas prendre une carte de crédit, on va donner un scénario standard. Tu prends une carte de crédit, elle te donne 70 points dans ton dossier. Automatiquement, tu as 70 points. Ta limite est à zéro, là, ben tu as zéro d'argent dessus dans ta balance.
Okay.
Ta balance est à zéro. Si tu montes jusqu'à... Ça, c'est la même chose pour toutes les cartes. Si tu arrives à 60%, de 60% et moins de ta balance, tout ton pointage, tu restes, mettons, à 70. Ça bouge pas, c'est correct. Tu maximises tes points comme ça. Si tu passes de 60% à 100% de ta balance, là, tu vas perdre des points.
Que tu veux dire à 100%? Tu veux dire, admettons que...
Mettons que tu as une limite de 1 000 $.
OK, que tu atteins ton 1 000 $.
En bas de 600 $, tu maximises ton pointage de crédit.
OK.
OK? Entre 600 $ et 1 000 $ de balance sur ta carte de crédit, sur ta limite de 1 000, ton crédit, il va baisser. Si tu dépenses ton 1 000 $, ton pointage, il baisse. Là, tu dépenses, mettons, d'un mois, tu as clairement d'entendre, de 2 mois, de 3 mois, etc. Mais là, tu vas perdre encore plus de points. Tu ne perdras pas tous tes 70 points parce que tu as la carte.
Mais quelqu'un qui l'a.
C'est pas bon.
Quelqu'un qui l'a, Daniel, mais qui paye, par exemple. il s'approuve pas qu'il est capable de payer ses dettes, mettons.
Oui, c'est bon. Oublie pas, tu as eu ta carte de crédit, donc tu as ton pointage positif. Si en plus, tu es capable de payer sur une base régulière puis tu démontres ta maturité de crédit, ça s'affiche dans ton dossier, c'est positif.
Mais si tu dis...
Et même si tu es à 100% de ta balance puis tu dépenses, mais tu fais quand même ton paiement minimum, tu vas pas perdre tous tes points, mais tu n'auras pas le meilleur de tes points. Tu
non, c'est ça.
OK.
Est-ce qu'un être humain peut faire faillite?
C'est pas un être humain qui fait faillite.
C'est vraiment ta personnalité légale.
C'est ça que tu voulais que je te dise avant.
Oui.
mais là, c'est sûr que les gens, ils vont dire...
Ça, c'est un autre débat. Vous écoutez les autres émissions qu'on a
faites. Oui, puis il y a des extraits. Justement, d'ailleurs, c'est disponible sur le site Internet parce qu'il y a un grand débat, ça, les gens... Faut que vous allez voir aussi ce qu'on avait fait précédemment quand on a parlé de la personne et de l'être humain en soi. Mais j'en viens au crédit.
Oui.
Je veux dire, donc... Notre ami Seb a tout intérêt à ouvrir une carte de crédit,
oui.
À mettre un petit peu d'argent dessus, mm-hmm. À faire son paiement en totalité, oui. À l'intérieur des délais prévus. Puis, comme ça, graduellement, il va arriver à une cote qui va lui permettre, un de ses quatre, d'avoir une cote qui va faire en sorte qu'il va pouvoir acheter une maison ou son bateau avec ses deux filles béboises.
Si tu n'as rien tout.
Si tu n'as aucune activité de crédit du tout, pogne-toi une carte de crédit sécurisée pour commencer. Puis j'ai mis des liens dans sur le forum déjà sur comment faire pour en avoir. Fait que c'est pas trop compliqué. Tu ramasses une carte de crédit sécurisée, t'es capable de mettre 1 000 $ dessus, tant mieux. Ton 1 000 $ sur une carte de crédit sécurisée, c'est qu'ils vont prendre ton argent que tu vas leur donner.
Ouais, c'est ça.
Ils vont te le garder pendant un an. Si tu payes pas ton compte, ils vont prendre cet argent-là, ils gèlent ta carte, ils prennent cet argent-là, ils se servent et ils te remettent le reste, puis tu peux plus utiliser la carte. Si après un an, t'es correct, tu n'as pas manqué un paiement puis ton crédit se passe bien. Il te redonne le 1 000 $.
Oui.
Puis, j'ai une autre question.
Oui, vas-y.
Mettons que la seule affaire que tu as en crédit, c'est un prêt de char.
OK.
Bon, ça compte.
Tu peux pas avoir eu rien dans ton crédit si tu as eu un prêt de char parce que c'était un prêt d'auto, donc tu avais une maturité de crédit.
Bon, ben c'est ça. Donc, si j'ai un prêt de char, j'ai un score quelque part. Là.
Oui, tu as un dossier de crédit. T'as de l'activité dans ton dossier.
Justement, je suis en train
d'en regarder ça. Donc, si j'ai juste ça comme activité et que j'ai jamais sauté un paiement de char, ça veut dire que mon score est bon.
Si tu as juste ça comme activité, tu fais pas grand-chose la fin de semaine. Là.
Ben, je paye tout le cash à le reste. Là.
Non, tu devrais avoir un bon dossier. Mais écoute, okay. Smart, présentement, ça lui coûte 17 $ par mois pour avoir son dossier comme ça. Accès illimité, c'est parfait. C'est le fun quand tu veux maintenir ça à jour puis tu as les moyens de le faire. Si tu n'as pas les moyens de faire ça ou tu ne veux pas faire ça, il y a d'autres solutions.
Mais ce que je conseille aux gens, par contre,
c'est ça, comme.
Oui, mais avant que tu sautes dans le com, je veux dire, moi, je le fais, mais c'est temporaire parce que là, il y a beaucoup d'activités puis je veux contrôler l'activité puis je veux savoir.
Parfait,
mais je ne maintiendrai pas ça. Là. Je ne suis pas un câble. Je ne mettrai pas 260 $ par mois, par année, je veux dire, pour avoir accès à mon dossier.
Tu payes selon la nécessité, de toute façon.
Oui, c'est ça, mais c'est du cas par cas. Là.
Les solutions sont simples. Equifax et TransUnion, on peut aller sur le site directement pour deux choses. Faire imprimer le formulaire de demande qu'on va envoyer par la poste. Ça ne coûte rien faire ça. Ou tu peux payer par carte de crédit pour avoir accès à ton dossier immédiatement pendant 30 jours. Sauf que là, le seul problème, c'est qu'ils vont te charger autour de 23 ou 24 $, je pense, pour faire ça.
Moi, l'affaire que je comprends pas, c'est pourquoi il faut payer pour ça.
OK. Dans la loi sur le comment ça s'appelle? La loi sur le renseignement. Je l'ai dit tantôt, la loi sur le renseignement, les renseignements personnels dans le secteur privé. Toute entreprise qui a un dossier sur quelqu'un, cette personne-là, cet individu-là, a le droit de réclamer l'information pour lui-même, sans frais. La seule raison pour laquelle ils vont te charger des frais, ça va être pour le traitement de l'information. Mais, il y a aussi, admettons que tu veux avoir ton dossier médical. Tu peux faire une demande pour l'avoir, mais ils ont le droit de le refuser. Parce qu'il y a certaines conditions. Exemple, les médecins, ils se parlent entre eux autres dans leur langage médical. Si toi, tu n'as pas la formation, tu ne comprendras rien. Okay? Fait que pour ça, ça peut être une raison qui justifie le refus. Mais sinon, ils ne peuvent pas te charger. Fait que si tu vois que la vidéo, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton dossier, ils n'ont légalement aucune autorité de t'en empêcher.
OK.
OK? Fait que ça, tu peux le faire, il n'y a pas de problème.
Sauf que si tu veux savoir ton score, tu n'as pas le choix que ce soit des compilations de statistiques, donc tu n'as pas le choix de payer, si je comprends bien.
Ben non, pas du tout.
Donc, c'est ton score, comme tu fais?
Je crois que ça ne coûte rien. Non, attends, dans le temps, ça m'a coûté 5 $, je pense, quand j'ai fait ma demande par la poste. avec le formulaire. Je pense que c'était 5$, mais c'est parce que ça, c'est les frais qu'ils chargent pour faire le traitement. T'as un employé qui va s'occuper de ton dossier, l'imprimer, etc., t'as l'envoyé, ils chargent 5$.
Oui, parce que c'est pas des instituts gouvernementaux ou paragouvernementaux.
Non, mais ils sont gérés par la loi sur le renseignement.
Oui, je sais, mais je veux dire, à bout de ligne, c'est du privé, puis encore là, le score, je veux dire, eux autres, ils ont défini des règles, puis c'est les règles que, justement, tu mentionnes, Daniel, qui sont des règles qui sont communes à une industrie qui, justement, utilise après ça les concessionnaires automobiles, les institutions financières.
Oui. Mais tout à leur avantage de s'imposer partout.
Oui, mais à quelque part, je veux dire, c'est un système qui a été créé par, justement, un système qui visait à maintenir, comment je pourrais dire, une cote standard, mais sans aller dans... Parce que, je veux dire, à un moment donné, c'était difficile aussi à l'époque. Il faut se ramener, il y a 25-30 ans, parce que là, la personne pouvait avoir contracté des dettes avec un paquet d'institutions directement, puis s'il n'y avait pas de consolidation qui se faisait. Maintenant, c'est consolidé vers les deux que tu as mentionnés,
oui.
Mais c'est tout à fait normal que ces gens-là écoutent pour opérer, puis je pense que c'est sain aussi de le faire, de demander un certain montant pour avoir accès à un dossier qui est un dossier, en réalité, comme je dis, commercial. Là. Oui. C'est pas, je veux dire, ça fait pas partie de ton tatou.
C'est dans la loi qu'ils ne peuvent rien te charger, mis à part les frais de traitement.
Mais Daniel, juste pour les gens qui nous écoutent, puis pour récapituler, admettons que quelqu'un ce soir veut savoir sa cote,
oui.
Il veut le savoir live en direct, il va sur le site d'Equifax.
Equifax.ca ou transunion.ca.
OK. Puis là, ils vont
enregistrer.
OK.
Ils rendent ces informations qui leur permettent de s'assurer qu'ils parlent au bon individu.
OK.
OK. Là, on parle du numéro d'assurance sociale, on parle d'informations privilégiées comme ça. Puis ensuite, une fois que c'est confirmé, TransUnion, je pense qu'il t'envoie un courriel avec une vérification.
Oh oui.
Tu fais ça, puis ensuite, tu as accès à ton dossier. Immédiatement, comme ça.
Mm.
C'est tout. Si, moi, j'ai un ami qui s'appelle Sylvain Paquette.
OK.
Qui se trouve à être le fondateur président d'une compagnie qui s'appelle Crédit9.com, qui est une. Qui Crédit9, plutôt. C'est une organisation à but non lucratif. Puis leur travail, leur responsabilité à eux, c'est d'aider les gens à rebâtir leur crédit. OK. Ils sont situés ici à Montréal, plutôt, sur la rue Bélanger. Puis ça coûte. Sylvain, si tu prends rendez-vous avec, ça te coûte 60$ une fois. Puis tu peux l'appeler, puis il va te donner un coup de main. Tu peux l'appeler autant de fois que c'est nécessaire, puis c'est ça qu'ils font. C'est leur responsabilité. C'est leur devoir, si tu veux. Puis ils ont, sur leur site web, crédit9.com, ils ont une université en ligne. Qu'ils ont quelque chose comme 20 vidéos. Et c'est très, très, très informatif. Sérieusement, ça vaut la peine.
OK. Hey, Daniel, on a quelqu'un qui veut ajouter peut-être un commentaire. Seb,
si tu peux nous le mettre en onde.
Il est en onde, oui. À qui on parle?
Oui, Olivier.
Oui, vas-y, Olivier.
Oui, bonjour. Bonsoir, c'est super intéressant comme sujet ce soir. Là. Moi, ce que je me demandais, c'est si quand on va à la caisse, exemple, qu'on fait un prêt pour, mettons, un prêt automobile, la caisse, eux, ils vont vérifier notre code de crédit pour accorder ou pas le prêt.
Oui.
Mais comment ça se fait quand, mettons, on leur demande, tu peux-tu nous donner mon score? Ils ne peuvent pas nous le donner. Ah, on ne l'a pas, on ne peut pas le transmettre. Non, puis on a le droit, normalement, d'avoir accès à ça.
La raison pour laquelle ils peuvent pas le faire, c'est que leur interface logicielle, eux, ils vont te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton salaire? C'est quoi ton entrée? T'as combien de dettes, etc.? T'as-tu des actifs, des acquis, des choses comme ça? Tout ça, ça se compile, ça se transfère d'une façon numérique. Ça représente une valeur. Lui, il rentre ces informations-là, puis il pèse sur son petit enter. Son interface à lui, que le vendeur n'a aucune idée qu'est-ce que ça fait derrière, l'interface communique avec l'interface de chez Equifax ou de chez TransUnion. L'information est compilée, on s'assure qu'on parle à la bonne personne, et Equifax ou TransUnion retourne la cote de crédit à l'autre, au vendeur, mais pas dans son écran, il le retourne au système. Le système de la Banque TD ou la Caisse Populaire, exemple, eux reçoivent la cote de crédit, puis eux, ils ont déjà un barème de choses. Si la cote arrive à, mettons, à 620, ça va représenter dans l'écran du vendeur, non, sauf si. Okay? Puis là, ils vont dire, OK, il faut que tu demandes telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que la personne n'a pas le dossier de crédit, n'a pas l'information, parce que le vendeur n'a pas le droit de savoir ça.
OK, donc c'est vraiment la seule façon, c'est d'appeler Equifax. Eux, ils n'ont pas un score qui leur apparaît à l'écran, ils ont juste un oui, non, peut-être.
C'est ça. Ils ont une grille qui va apparaître, qui va correspondre, qui va être déterminée basée sur qu'est-ce que le système leur dit. Mais ton beacon score n'apparaîtra pas sur leur écran.
Ah, ben, c'est parfait. Là, je comprends plus maintenant.
Ben oui, mais regarde.
C'est pas de la faute du vendeur.
Non, non. Fait que tu tires pas des roches. Mais...
ah, non. Non, je vais m'en retenir pour ça. Et,
mais, ouais, mais l'as-tu eu ton prêt finalement ou? On s'entend.
Oui, oui, oui.
Ok,
ouais,
non.
C'est, bon signe. C'est bon signe.
Là. Non, c'est bon,
c'est
signe.
Bon ouais. Signe, ça.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, le gars, il dit quelle option que tu veux. Ben, je veux vraiment mon dossier de crédit dans le coffre à gants, s'il vous plaît. Hey, ben, merci, Olivier, d'avoir appelé.
Hey, merci. Hey, merci, Olivier. Bonjour, bonne soirée.
Merci, bye-bye.
Hey, c'est-tu de la technologie, ça?
Hey, c'est du monde, ça se parle tout live comme ça.
On a-tu cap de même, mon sel?
Les gars, ça marche.
Hey, c'est-tu, Dan?
Nous on est allé prendre une bière
ouais,
en bas.
On est allé prendre une petite pisse en même temps. C'est fun, ça.
J'en prendrai une pour moi. Pas une pisse, une bière, je pense.
Ouais, ouais,
ouais. On souhaitait, hein, parce que...
Je vous suggère, là, creditneuf.com, commencez par consulter le site web. Il y a l'université en ligne dans les onglets.
Mais on mettra le lien.
Moi, sérieusement, tu dis que tu connais cette personne-là chez Creditneuf
oui.
Ou tu connais quelqu'un qui travaille
non, non,
là?
Non,
ou...
je connais le président, c'est un ami à moi.
Il faudrait parler de ça à l'émission à un moment donné. Il faudrait,
oui. Donc, il y a moyen d'avoir sa cote et que ça ne coûte rien.
Oui.
Youpi,
c'est ça que je veux. Vas-y par écrit.
Oui.
Imprime le formulaire et envoie-le.
Oui, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'il faut que ton dossier quand même, faut tes parce que moi, je l'avais déjà fait, et là, il faut que tes choses soient à jour quand même, parce qu'ils demandent par rapport à tes anciennes adresses, parce qu'eux autres, ils ont dans le système déjà ton adresse.
Oui.
Puis quand moi, j'arrivais, j'entrais mon adresse, ça donnait absolument rien.
Ça amène un bon point, là, justement.
J'ai appelé.
Oui. Excuse-moi, vas-y.
Non, mais c'est ça, mais là, j'avais appelé là-bas, là, on m'expliquait. En tout cas, regarde, c'était beaucoup plus complexe. Pour ça, ouais. À un moment donné, j'ai dit, gars, shit, puis je vois, puis je paye, puis mieux soit fini. Ouais. Ouais.
Seb, une des choses qui fait que tu as peut-être eu ton prêt auto, c'est si tu n'as pas déménagé plein de fois.
J'ai déménagé plein de fois.
Oui, OK. Ben c'est pas bon. Okay? Si tu déménages plus que deux fois en trois ans, ça a un impact négatif sur ton dossier.
Pauvre gars qui n'aime pas sa blonde.
Facilement quatre fois.
Fait que c'est pas bon. C'est pas bon si tu as déménagé trop de fois.
Mais comment qu'il voit, je veux dire, que ce soit négatif?
C'est propriétaire.
Oui, c'est eux qui aiment le bail.
Tu vas signer, quand tu vas avoir rencontré ton propriétaire là, pour voir si tu peux avoir le logement qu'il a à t'offrir, là, qu'est-ce que tu penses qu'il fait?
Vérifie
une demande de crédit.
Oui.
La raison pour laquelle il le fait, il a juste le droit de s'assurer que tu as la capacité de payer.
Ben, c'est ce que je disais, Dan, tantôt. Les gens ne savent pas à quel point leur dossier de crédit peut être visité.
Oui.
Je le dis, regarde, je te le montrais tantôt. J'ai de l'activité dans le dernier mois. J'étais plugué là, dans mon dossier de crédit. Je suis toujours plugué. Si je regarde dans le dernier mois, j'ai 5 visites dans mon dossier de crédit.
Attends un petit peu, d'ailleurs, la dernière, Daniel... Voyons, Colin, s'il est en train de voir!
Le gars, il ne trace pas ses chums d'abord. On va aller faire un enquête. Parce que, non, mais sérieusement, là, on parle de ceux qui veulent interroger leur dossier. Mais t'as ceux, les demandeurs, n'importe qui. Moi, si je veux, je paye 100 quelques dollars, puis je m'informe sur ton dossier de crédit.
Ben oui.
C'est pas un problème.
Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un est détective privé qui a un pouvoir supplémentaire sur les autres. Il est juste au courant de l'information.
Ben oui, voyons donc.
T'es bien écœurant, toi.
Non, c'est pas le numéro de tes bobettes, c'est juste.
Puis en passant, là, si vous allez chercher un logement puis le propriétaire vous demande votre numéro d'assurance sociale, ne le lui donnez jamais. Okay? Il n'a pas le droit de demander ça puis il n'a pas le droit de l'avoir non plus. S'il dit « ouais, mais je n'ai besoin pour le numéro pour la vérification de crédit », ben vous lui donnez des informations supplémentaires, du genre « où est-ce que vous avez habité ». Parce qu'il n'y a certainement pas plus qu'un smart qui a habité aux mêmes adresses en même temps, quatre adresses.
Un smart, non. Non. C'est sûr. Mais là, Daniel, la grande question, c'est par rapport justement à ce dossier de crédit-là qu'on se construit hein, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Je veux dire, y a-t-il un point culminant? Y a-t-il un moment donné de corriger ça? Si on arrive à, mettons, à 1000, là, on nous prête, là, regarde, on va acheter justement un club de hockey à la Gillette, là, puis on nous prête l'argent.
Ben, premièrement, le dossier de crédit standard ne monte pas plus haut que 910 points. Puis comme je disais tantôt, à partir de 721, t'es généralement accepté pour presque tout. Mais faut pas oublier. Si tu fais un salaire de 150 000 par année, mais que tu veux acheter un condo ou un édifice commercial qui en vaut 13 millions, et ils vont peut-être te dire non, parce qu'il y a un être humain de l'autre bord pareil qui va décider, tu sais. Même si tu as un pointage de crédit de 850.
Mais je vais te poser une question, moi, Daniel. Ouais. Si quelqu'un, justement, mettons qu'il y a un crédit, bon, qui est correct, so-so, mais pas plus que ça, mais qui veut comme le remettre dans l'état le mieux possible.
OK.
Je veux dire, la journée...
Quelles sont les procédures?
Ben, c'est ça. Mettons qu'il rembourserait toutes ses cartes d'une claque ou whatever.
C'est pas la première chose à faire.
OK.
La première chose à faire, c'est de ramasser ton dossier de crédit.
OK.
C'est la première chose que tu fais, puis tu regardes c'est quoi les créances et les informations qui sont les plus dommageables pour ton dossier de crédit ou lesquelles qui sont les plus urgentes à agir dessus.
OK.
OK. Si tu as des choses qui sont à R9, c'est déjà terminé. Fait que tu peux travailler dessus, mais si tu as des choses qui sont sur le point de devenir R9, prends-les immédiatement.
Mais quand tu dis R9, pour les gens qui nous écoutent et pour moi, c'est R9 veut dire?
Le R9, c'est une cote qui définit le statut d'une créance et qui veut dire que ça a été envoyé au profit des pertes de l'entreprise. Donc, ils ont terminé avec toi.
Donc, ça veut dire qu'ils ont perdu de l'argent?
Oui, dans ton cas, effectivement.
Mais quelqu'un qui paie tout le temps, je parle. Mettons quelqu'un qui a des cartes, mais qui paie tout le temps, par exemple.
OK, puis qui voudrait augmenter son crédit?
Ben, qui veut... Non, mais mettons que tu as une carte de 5 000 par exemple. Oui. OK, je sais pas comment ils évaluent ça, ta cote. Mettons que tu es à 4 600 par exemple.
OK.
Puis là, je parle pas d'un cas personnel, j'essaie de mettre des exemples pour que les gens puissent comprendre.
Oui.
Mais mettons qu'il claire d'un coup, ou bien qu'il claire en deux shots, ou ta cote de crédit que tu disais 720 quelque chose tantôt, elle va-tu monter d'une traite ou elle va se normaliser à 800? Ou...
Oui, mais regarde bien, je te donne un exemple vraiment simple. J'ai un ami à moi qui a pris son dossier de crédit en main, puis il a vu qu'il y avait une erreur dans son dossier de crédit. Le journal La Presse lui avait... supposément qu'il n'avait pas payé une dette de 100 quelques dollars qu'il devait à la presse.
OK. Okay?
Mais lui, il n'a jamais reçu la presse. Donc, c'est pas la bonne personne.
OK. Okay?
Fait qu'il a écrit une lettre à la compagnie qui a soumis l'information à Equifax.
OK.
Puis il leur a expliqué, vous avez fait une erreur, vous avez tant de temps pour l'enlever. Ils l'ont enlevé dans l'après-midi et automatiquement, mon ami, son score a augmenté de 70 points.
Oui, j'ai pas de misère à le croire. J'ai vécu la même expérience, Daniel. Justement, comme j'ai dit tantôt, j'avais étiré une carte de crédit et imagine-toi que 12 ans plus tard, la compagnie émettrice, qui était Mastercard, la Banque nationale, émettait toujours, parce qu'eux, ils émettent, c'est des rapports qui sont envoyés à chaque mois.
Automatisés.
Et là, à chaque mois, ils émettaient une blacklist. Et là, ça faisait 12 ans. Puis on parlait pas d'une grosse dette à l'époque, on parlait de 800 $. Tu sais, j'avais une limite de crédit à 800, puis j'avais dépassé, puis j'avais traîné pendant quelques mois ce dépassement-là, mais ils n'ont pas perdu d'argent avec moi. Là. Je les ai payés avec les intérêts, tout le kit. Puis, je me suis rendu compte que 12 ans plus tard, puis là, quand j'ai appelé là-bas, ils m'ont dit, non, habituellement, ça va s'éteindre après 4 ou 5 ans, mais là, il y a eu un bug dans le système. Mais sans avoir été dans mon dossier, comme je dis, là, c'est un peu d'investissement là, en temps, mais puis si vous êtes pressé, peut-être un peu d'argent, mais ça vaut vraiment la peine.
Ouais.
Ça vaut vraiment la peine. Puis surtout, ça va vous permettre peut-être d'éviter des frustrations là, très importantes qui, moi, sont déjà arrivées. Justement, tu te rends chez un Tanguy, chez un Bro Martineau, tu te rends compte que n'importe qui peut emprunter, tu arrives là, bang, on dit non, mais tu viens de passer, puis là, c'est un frais vécu que je vous compte, tu viens de passer pour un prêt hypothécaire, parce que eux autres, là, ce qu'on dit pas, Daniel, c'est que c'est un des éléments du dossier.
Oui.
Parce que c'est un élément qui va faire en sorte que ça, c'est ton pedigree, ton historique, mais... Il y a quand même un raisonnement. C'est ce qui est le fun de comprendre que ça existe encore en 2008, c'est que le conseiller qui est devant toi, lui, va quand même faire le pour et le contre et il va regarder l'ensemble aussi et l'historique que tu auras eu là.
Oui. Ben, tantôt, fait que Duff, vite, pour répondre à ta question, si ta carte de crédit, tu as 5 000 de limite, mais que tu as 4 600 dessus, si tu es au-dessus de ton 60 %, tu perds des points. Okay? Mais dans le sens que de ton 70, tu vas tomber à peut-être 55 points.
Okay?
Fait que t'es plus 55 au lieu de plus 70. Mais si tu descends ta limite en bas de 3000 $, ce qui est moins de 60 %, là, tu vas avoir ton 70 points complet.
Okay.
Fait que c'est un moyen d'augmenter ton pointage.
Okay.
Okay? Puis une autre affaire qu'on disait tantôt, dans ta stabilité de logement, en dedans deux adresses différentes en dedans de 3 ans, c'est correct, c'est supporté, mais sinon, tu vas perdre des points. C'est la même chose pour les emplois. Si tu as plus que deux emplois différents consécutifs, là, on parle pas, mettons, que tu as deux jobs en même temps, là. Si tu as deux emplois différents en dedans de 3 ans, ça démontre que tu n'es pas nécessairement quelqu'un qui est stable.
OK.
Oui, c'est okay? ça.
Et donc, la personne devant toi peut dire, ça fait 4 fois qu'il change de job en 3 ans, il a changé d'adresse 5 fois, ce gars-là, c'est pas mal instable. J'ai pas vraiment le goût de donner de l'argent.
Mais encore là, Daniel, je te reviens, tu as le gars qui est à 3000 sur sa carte de crédit.
Sur une limite de
5 000.
OK, qui est à 60 %.
Qui paye so-so, et l'autre qui est à 4 600, qui est plus que son 60 %, mais qui paye très bien.
Oui.
Lequel a la meilleure cote?
Celui qui paye très bien.
Donc, quand on parle du 60 %, tu dis que ça peut baisser à 55 la cote. Si le gars paye bien, ça veut pas dire qu'il est moins bon payeur que l'autre que 3 000 qui paye pas bien.
C'est ça.
Mais dans ce cas-là, la mesure du le gauge que tu as de 70 qui était descendu à 55, il est hyper relatif à ce comment tu paies.
Oui, mais sauf que si tu as un mois en retard, je pense que tu perds 30 points, je pense.
OK, mais si tu repayes après le mois suivant, il reprend.
Mais là, le problème, c'est que ça a déjà apparu dans ton dossier. Fait que c'est apparu une fois comme étant un problème. Ça va rester là combien de temps?
Ça me fait
pas combien de temps ça reste, mais pendant le temps que c'est là, tu perds ton 30 points pareil.
T'es en train de faire de Dan un défenseur des codes de crédit. Mon homme, écoute, il fait pas ça dans la vie. T'as 10 chances, il est là. Les gros codes.
Oh, non, mais Dan, c'est une référence.
Hey,
là.
On est vendredi, on va pas. Il est là. Hey, Dan, là, c'est ça.
Mais non, mais il se débrouille.
Tu sais, break, man.
Oh, mais Dan, il est hot. Qu'est-ce que je te dis? Il connaît sa matière.
Oui, mais il y a une vie.
Non, je le sais, puis il y en a une méchante bonne. Là. On aime bien quand il est en ronde avec nous autres. Dan. Mais merci, alors, Dan, d'ailleurs, en passant.
Non, mais
sérieusement, c'est parce que j'essaie de poser des questions que les gens se posent.
Oui.
Tu sais, je veux dire, des gens normaux, c'est quoi? Ils ont une carte de 4-5 000, à peu près comme ça. Puis, tu sais,
je peux pas dire, par exemple.
Non, mais quand je dis normaux, tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on parle des cas typiques, là, une carte, donner un exemple qui peut être s'apparenter à peu près à tout le monde.
Ben, Seb,
là.
On a le plaisir de t'annoncer que t'es pas normal.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire par là?
Je parle pas
d'une carte de 200 000 piastres, c'est ça, je te dis, tu sais. Oui. Mais moi,
parce que tu joues pas dans la même sphère, tu sais. Écoute, si t'as une carte de crédit qui est limite de 200 000, là, je te connais probablement pas, tu sais.
Ouais, non, c'est définitif.
Je vais pas en vacances sur ton yacht l'été non plus.
mais c'est ça. Fait que finalement, même si ton 60% est un peu élevé, juste pour terminer là-dessus,
ouais.
Si tu paies bien, ta cote de crédit n'est pas moins bonne que celui qui en a 3000 qui paie moins bien.
Non, OK. Si, oublie pas. Si ta limite est au-dessus de ton 60%, tu vas perdre 15 points, mais si tu es à un mois de retard dans tes paiements, tu vas en perdre 30.
Oui, c'est ça. Fait que finalement, ouais,
cette logique-là s'applique.
Okay.
Si tu dépenses le 30 jours,
oui.
Ben là, je pense que tu perds 45 points. Puis après ça, tu vas perdre 60 points si tu rentres dans le 3 mois.
Tu dépasses 2 mois, tu casses une jambe.
Okay. Ouais, t'as raison, c'est ça, c'est 40, 60, 90 points.
Ouais, OK.
Fait que je les vois en même temps, là. J'ai
c'est là, merci.
Hey, Dan, faut reprendre ça, puis amène-nous ton chumé, là.
Oui, je vais demander.
Puis on va continuer, puis on a encore quelques sujets à traiter, puis je veux pas t'en retenir dans la gâte, là.
Non, puis Dan...
je vous écoute, je me retiens pas, je vous écoute.
Puis Dan, on veut que tu viennes en studio aussi, là.
Ah, il va venir,
quand tu passes ici, tu viens faire ton tour en studio aussi, là. On a du
vin, c'est gentil, puis... mais les vendredis, c'est peut-être plus... c'est pas mal... Vendredi à 10h, c'est à plus d'allure. Fait que Botrax, je t'envoie un message, on s'arrange pour qu'on descende.
Non, sérieux, ce serait le fun, on aimerait ça voir en studio.
Si notre cote est bonne encore pour vous autres.
On ne fera pas attendre un mois pour être sûr de ne pas perdre 30 points.
Okay.
Hey, merci Daniel.
Oui, merci Dan.
Salut Daniel. Allez,
bonne soirée. Salut, bye-bye.
Toujours un plaisir avec Daniel, par exemple. Salut, c'est une référence.
Hey, puis, écoute, on va avouer un petit secret. Là. Regarde, Dan, j'ai donné accès à notre endroit.
À notre crédit.
Non, non, pas notre crédit, mais il y a un endroit sur le forum, c'est caché, là, les hackers, je vous mets au défi, trouver, essayer de débarrer, là, mais où on met nos minutes,
ouais,
là,
ouais.
Puis nos sujets pour l'émission. Puis Daniel, c'est le genre de gars, bon, de quoi vous parlez à soir, tu sais, puis regarde, j'ai
nous trouve d'info.
Et là, ton sujet d'offre, il était pas dans la liste, parce que tu l'as amené à la fin, puis j'ai dit, oh, l'endettement, là, OK, regarde, c'est incroyable.
Ouais. C'est moi, c'est